VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiache chez Anne Albertson, avec vous à la une du monde aujourd'hui, Anne.
Au Niger, à 3 jours des élections présidentielles, le vote par témoignage est très contesté.
Le Burundi et la République démocratique du Congo accusent le Rwanda de déstabiliser Bujumbura.
Élection en Ouganda, 15 millions d'électeurs appelés aux urnes.
Fin de la visite historique du pape au Mexique, le souverain pontife a évoqué, je cite, « la tragédie humaine que représente la migration forcée ». Comme chaque matin, vous retrouverez la Minute Écho et le journal des sports, mais tout de suite, c'est le journal.
Le Burundi et la République démocratique du Congo demandent donc au Conseil de sécurité de rappeler à l'ordre le Rwanda, accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser Bujumbura. L'ambassadeur burundais Albert Shingiro a réclamé une réunion d'urgence du Conseil afin de prendre des mesures appropriées contre les agissements de Kigali. À Bujumbura, Gelase Ndabirabe, le président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, accuse le chef de l'État rwandais, Paul Kagame.
Ceux qui s'accusent ou qui se reconnaissent dans ces malheurs, qui ont endeuillé le Burundi, font tout pour ne pas se mettre à nu et préparent des manipulations mensongères conduisant à la déstabilisation du pays dans le but de ne jamais permettre au peuple burundais d'avoir du temps nécessaire pour se pencher sur l'histoire véritable du Burundi. Pour s'être impliqué dans différents événements de l'histoire du Burundi, Paul Kagame devrait d'ores et déjà penser. Ce n'est pas en cherchant à asphyxier le dialogue inter-burundais pour se précipiter vers des facilités de putsch ou d'imposition d'une transition quelconque que la vérité sera évitée, puisque chaque chose a son début et a sa fin.
Au Niger, J-3 avant la présidentielle, le président sortant, Mahamadou Issoufou, organise aujourd'hui un grand meeting au stade Séni Kountché à Niamey, la capitale. Hier, la commission électorale a autorisé le vote par témoignage, une décision très contestée sur place. Des précisions avec l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinault.
Oui, il n'y avait pas vraiment de suspense, mais Boubé Ibrahim, le président de la CENI, a officialisé la décision hier dans un arrêté. Le texte précise qu'un électeur pourra voter par témoignage si 2 électeurs d'un même bureau de vote peuvent authentifier son identité. L'opposition crie au scandale et dénonce des fraudes à venir. La mesure concerne plus d'1 million d'électeurs, notamment dans la région de Tawa. Mesure justifiée selon le PNDS et ses alliés soutenant Mahamadou Issoufou. En effet, le vote par témoignage n'est pas nouveau au Niger et a déjà été pratiqué à de multiples reprises. Seul hic, cette fois-ci, il avait été supprimé de la loi électorale car la biométrie devait être mise en place pour ce scrutin du 21 février. Il n'en est rien et beaucoup redoutent à présent une forte contestation des résultats. C'est notamment l'avis des différentes missions d'observation, dont celle de l'Union africaine, de l'UEMOA ou encore la francophonie dirigée par le Burkinabé Michel Kafando. Nicolas Pinault, Niamey pour VOA Afrique.
Et au Niger, toujours, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, 2 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire urgente dans ce pays. Le Niger est régulièrement confronté à des crises alimentaires en raison de la sécheresse, de fortes inondations liées au changement climatique. Le pays détient également l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde, avec 7,1 à 8 enfants par femme, d'après les chiffres officiels.
En Ouganda, quelques 15 millions d'électeurs sont appelés dans 28 000 bureaux de vote aujourd'hui pour choisir leur président et 290 députés. Le président sortant Yoweri Museveni, 71 ans et au pouvoir depuis 30 ans, est donné favori. Monsieur Museveni est face à 7 candidats, dont l'opposant historique Kizza Besigye, qui l'a déjà battu lors des 3 derniers scrutins. Pour évoquer l'ambiance particulière en ce jour de vote, Idriss Fall a joint Eric Bagirou Wugusa, envoyé spécial de la VOA à Kampala.
Les campagnes électorales ont pris fait, les commerçants font leur business. On peut dire que la situation est normale. Yoweri Museveni, il n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Kizza Besigye, il a rappelé aux partisans d'être calmes, rester toujours vigilants pour que les votes ne soient pas volés. Il n'a pas l'espoir que les élections vont passer pacifiquement. Amama Mbabazi dit la même chose. Il a dit que tous les partis de l'opposition ont pris la décision de faire la coalition pour que les voix ne soient pas volées.
Est-ce que vous pensez que la journée va se passer calmement?
Nous ne pouvons pas déclarer que ça va passer calmement parce que la population dit qu'il a peur, parce qu'avant, quelques opposants disaient que ça peut provoquer une révolte. Il y a quelques Rwandais qui n'ont pas les nationalités qui ont pris la décision de retourner dans leur pays.
En Égypte, le Centre El Nadim pour la réhabilitation des victimes de violences et de tortures, ONG locale de défense des droits de l'homme, a été fermé sur ordre des autorités, a indiqué mercredi l'association. Le centre offre notamment un soutien psychologique aux victimes de tortures et de violences. Le porte-parole du ministère a justifié cette décision en accusant l'ONG de mener des activités autres que celles autorisées par sa licence, sans donner plus de précisions sur ces violations présumées. Pour Amnesty International, la décision de fermer le centre El Nadim semble marquer une expansion de la campagne en cours contre les militants des droits de l'homme en Égypte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, en Turquie, un attentat à la voiture piégée visant un convoi militaire a fait au moins 28 morts et 61 blessés hier soir en plein centre de la capitale, Ankara. L'attaque n'a fait l'objet d'aucune revendication immédiate et le président turc a déclaré que la Turquie n'hésitera pas à recourir à tout moment, à tout endroit et en toute occasion à son droit à la légitime défense. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a annulé la visite qu'il devait effectuer à Bruxelles pour évoquer la crise des migrants avec les responsables de l'Union européenne. Par conséquent, la réunion n'a pas eu lieu, ont indiqué les diplomates. Les États-Unis ont fermement condamné l'attentat et assuré leur allié turc de leur soutien. Le président français François Hollande a dénoncé un odieux attentat.
Et cette nuit, la Turquie bombardait les positions kurdes en Syrie, notamment à Tal Rifat, dans la province d'Alep. Au moins 500 rebelles syriens ont traversé la frontière turque pour se rendre dans la ville syrienne d'Azaz, dans la province d'Alep, où la rébellion a subi une série de revers face à l'armée et aux forces kurdes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le passage s'est fait sous la supervision des autorités turques, a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman. Le président Recep Tayyip Erdogan avait affirmé plutôt que son pays n'accepterait jamais la création d'un bastion kurde à sa frontière avec la Syrie.
Les avions de chasse F-18 du Canada ont réalisé leur dernière frappe en Irak et en Syrie contre le groupe État islamique, conformément à la promesse électorale du gouvernement de Justin Trudeau, a annoncé hier son ministre de la Défense.
Ici aux États-Unis, le nombre de groupes incitant à la haine raciale a augmenté pour la première fois depuis plusieurs années. C'est l'ONG Southern Poverty Law Center qui l'affirme. En cause, la peur du déclin de la majorité blanche, notamment. Des détails avec Maëlys Hegel.
Selon l'ONG, le nombre de groupes incitant à la haine envers les minorités, noires, hispaniques, juives ou musulmanes et les homosexuels, est passé de 784 à 892 de 2014 à 2015. L'accroissement du nombre de groupes anti-musulmans est le plus notable depuis 2014, plus 42%. Le nombre de milices patriotes anti-gouvernementales a également bondi de 14% en 2015, une première depuis la réélection de Barack Obama en 2012. Aujourd'hui, on dénombre près de 1000 milices de ce genre aux États-Unis. Le Southern Poverty Law Center explique cette situation par la montée de la colère au sein de la classe moyenne blanche en difficulté, une colère due aux inégalités de revenus, à la montée des mouvements comme Black Lives Matter, aux avancées des homosexuels, ainsi qu'au nombre croissant de réfugiés et de travailleurs sans papiers. De l'autre côté du spectre racial, le nombre de groupes noirs au discours anti-blanc, voire anti-juif, a bondi de 59% en un an. Cette augmentation survient dans la foulée des violences policières fatales à de jeunes noirs américains.
L'avion du pape François a décollé de l'aéroport de Ciudad Juárez, au nord du Mexique, à la frontière américaine, à l'issue d'une cérémonie officielle en présence du président Enrique Peña Nieto. Le voyage du pape, historique, a duré 5 jours et s'est achevé par une messe transfrontalière inédite. Une immense scène avait été installée près de la clôture qui sépare le Mexique des États-Unis pour la célébration, suivie par plus de 200 000 personnes côté mexicain. S'exprimant devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, fidèles, enthousiastes, dont quelques centaines se tenaient collés au grillage côté américain, le pape a exhorté « Ce sont des frères et sœurs qui sont jetés par la pauvreté et la violence dans le narcotrafic et le crime organisé. Cette tragédie humaine que représente la migration forcée est aujourd'hui un phénomène global », a-t-il également ajouté. La Minute Éco, c'est maintenant avec Nathalie Barge.
Ouverture à Dakar ce jeudi du CENCON 2016, le salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest, indique Financial Afrique. Ce salon de 4 jours organisé par CICEMI et AG Group constitue une plateforme d'échange et de partenariat entre professionnels et décideurs du secteur des travaux publics et de l'habitat. L'Égypte accueille ce week-end les 20 et 21 février Africa 2016, un forum d'investissement panafricain. En juin dernier, à Sharm el-Sheikh, le COMESA, la SADC et la Communauté de l'Afrique de l'Est ont signé un accord tripartite créant la plus vaste zone de libre-échange du continent. Le forum Africa 2016 vise à mettre en œuvre cette intégration africaine. Organisé par l'Egyptian Agency of Partnership for Development, le pôle développement du ministère des Affaires étrangères, il sera inauguré par le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. La firme britannique d'exploration de gaz et de pétrole Tower Resources a annoncé l'installation d'une filiale au Cameroun, rapporte l'APA. À travers un contrat avec la Société nationale des hydrocarbures, elle s'est engagée à investir plus de 7 milliards de francs CFA dans des travaux de recherche sur une période de 3 ans. Ces travaux intègrent la réalisation d'études géologiques et géophysiques, l'acquisition, le traitement et l'interprétation de 100 km² de données sismiques 3D et le forage d'un puits d'exploration.
Merci Nathalie Barge. Place au sport à présent, Eric Maniarakiza. Alors Eric, en Ligue des Champions en Europe, le Real a battu la Roma.
Ah oui Anastasie, le Real Madrid est quasiment en quart de finale de la Ligue des Champions après son succès 2-0 sur le terrain de l'AS Rome pour les débuts européens de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur grâce notamment à un but superbe de Cristiano Ronaldo. La vie de l'entraîneur Zidane suit donc son cours, pour l'heure assez tranquille, au gré des victoires de son équipe.
On passe au classement des buteurs de la Ligue des Champions et depuis 92-93, Cristiano Ronaldo est seul au monde.
Avec un total de 89 buts, Ronaldo, triple ballon d'or, survole également le classement de la Ligue des Champions depuis 92-93 avec 9 buts de plus que son dauphin, Lionel Messi, déjà récompensé à 5 reprises et qui enregistre à son compte 80 réalisations. Le seul Africain dans ce classement arrive à la 10e position avec 44 buts, c'est l'Ivoirien Didier Drogba.
Info FIFA, verdict en appel pour Blatter et Platini à partir de lundi.
C'est en début de semaine prochaine que la commission des recours de la FIFA rendra son verdict. Joseph Blatter et Michel Platini contestent leur suspension de 8 ans. Les deux hommes jusqu'ici les plus puissants de la planète football sont tombés en raison du paiement controversé sans contrat écrit d'1,8 million de francs suisses aux Français en 2011 pour un travail de conseiller achevé en 2002. Si Platini tente de blanchir son nom Anastasie, de restaurer une image écornée, de récupérer au moins son fauteuil de président de l'UEFA, Blatter, lui, n'a plus grand-chose à espérer.
Et puis pour les JO 2024, les villes candidates lèvent le voile sur leur projet olympique.
Des logos, des slogans, des forces et des faiblesses, Los Angeles, Paris, Rome et Budapest sont désormais officiellement embarqués dans une aventure diplomatico-sportive qui se terminera par le vote du Comité international olympique le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. Et comme slogan, Los Angeles a choisi « Suivez le soleil », tandis que pour Paris, votre ville préférée, Anastasie, la ville lumière, la force dans un rêve.
Au Kenya, le directeur de la fédération démissionne temporairement.
Oui, le directeur général de la fédération kenyane d'athlétisme a décidé de quitter son poste le temps de l'enquête. Il a été accusé par deux athlètes kényanes de leur avoir demandé un pot de vin en 2015 en échange d'une réduction de leur suspension pour 2 pages.
En NBA à Miami, nouvelle alerte pour Chris Bosh.
Le joueur vedette de Miami, Chris Bosh, victime d'une embolie pulmonaire la saison dernière, ne fera pas le déplacement avec son équipe à Atlanta vendredi, a annoncé hier le Heat.
Merci Eric Maniarakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Anastasie Tudiech avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Au Niger, avant-dernier jour de campagne aujourd'hui, et la polémique enfle. Nous vous le disions dans le journal, la commission électorale a autorisé le vote par témoignage, une spécificité de la sous-région. Mais l'opposition et la société civile critiquent ce choix. Éclaircissement avec l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pinault.
À la commission électorale, à Niamey, c'est l'effervescence alors que la campagne s'achève ce vendredi. Tout le monde commente abondamment l'arrêt pris par le président de la CENI, Boubé Ibrahim. Ce dernier permet à plus d'1 million d'électeurs sur les 7,5 millions du pays de pouvoir voter par témoignage. Cela signifie qu'un électeur pourra voter par témoignage si 2 électeurs d'un même bureau peuvent authentifier son identité. La mesure crée débat, comme le constate le chef de la mission d'observation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, le Sénégalais Amadou Mam Diop.
Aujourd'hui, il y a un point d'achoppement qui est le vote par témoignage. Il faut avouer quand même que ce point risque aussi de poser quelques difficultés. Quand nous prenons la sous-région, c'est un cas spécifique. Sur les 8 pays de l'UEMOA, il n'y a que ici qu'il y a un vote par témoignage. Mais aussi, il faut dire, avouer que par tradition, ça a toujours existé. Et je pense qu'il l'avait enlevé dans la loi, tout simplement parce que il y avait la biométrie en vue.
L'opposition nigérienne, le Modène Lumana en tête, crie au scandale et dénonce des fraudes à venir. La mesure concerne plus d'1 million d'électeurs, notamment dans la région de Tawa. Mesure justifiée selon le PNDS et ses alliés soutenant Mahamadou Issoufou. En effet, le vote par témoignage n'est pas nouveau au Niger. Il a déjà été pratiqué à de multiples reprises. Seul hic, cette fois-ci, il avait été supprimé dans la loi électorale car la biométrie devait être mise en place pour ce scrutin du 21 février. Il n'en est rien et beaucoup redoutent à présent une forte contestation des résultats. Ali Idrissa est le coordonnateur de l'OPEL, l'Observatoire du processus électoral.
Du fait que ça n'existe pas dans la loi nigérienne, ce vote par témoignage, qui a toujours existé. Mais cette fois-ci, on a pris le soin de l'extraire parce que ça crée problème. Aujourd'hui, quand vous voyez, selon l'arrêté du président de la CENI, on ne dit même pas ces 2 personnes peuvent témoigner pour combien de personnes. Ça veut dire que 2 personnes peuvent venir du matin au soir pour témoigner pour toute une liste de personnes. Il y a eu énormément de problèmes. On n'a jamais vécu autant de tensions à la veille d'élection que ces élections 2016, que nous avions eu 5 ans pour organiser.
Sur VOA Afrique, le président de la CENI temporise et appelle les acteurs politiques au calme et à la responsabilité. On écoute Boubé Ibrahim.
J'ai pleinement conscience du rôle que la CENI a joué, mais je dis aussi que la réussite des élections ne dépend pas exclusivement de la CENI. Il y a d'autres acteurs aussi qui doivent jouer leur rôle pour que ces élections réussissent dans l'intérêt supérieur de la nation.
Boubé Ibrahim affirme que les résultats du scrutin présidentiel seront connus au maximum 48 heures après le vote de dimanche. Et Nicolas Pinault depuis Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Au Sénégal, le président Macky Sall a renoncé à réduire son mandat de 7 à 5 ans et c'est contraire à son engagement électoral. Le mouvement Yen Amar, qui avait activement milité pour le départ du président Abdoulaye Wade, est très remonté contre le président sénégalais. Eric Maniarakiza a recueilli la réaction à Dakar de Malal Tala, activiste du mouvement Yen Amar, plus connu sous son nom de rappeur Fou Malade.
Nous en avons marre des promesses non tenues. Parce que l'engagement du président Macky Sall pendant la période électorale, qui consistait à réduire son mandat à 5 ans, était une promesse importante pour laquelle beaucoup de Sénégalais ont voté pour lui. Comme la plupart des personnes qui ont voté parce que le président a dit qu'il va réduire son mandat à 5 ans. Il a plusieurs fois dit à travers des médias, des interviews, récemment même devant Sarkozy, il a réitéré son engagement de réduire son mandat à 5 ans. Maintenant, il soumet au Conseil constitutionnel qui vient lui dire que ce n'est pas possible. Mais le président de la République a d'autres voies de recours. L'article 103 de la Constitution lui permet de passer directement par l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. Et on est en train de tergiverser entre avis et décision. Quand les Nations Unies ont parlé de la détention arbitraire de Karim Wade, il a dit... l'avis des Nations Unies, je n'en tiens pas compte. Mais il pouvait faire pareil, ne pas tenir compte de l'avis du Conseil constitutionnel.
Mais là, Macky Sall n'a pas violé la Constitution, il a renoncé seulement.
Macky Sall a violé la parole d'honneur. Quand le président de la République, gardien des institutions, quand il dit une chose, ça engage aussi tous les Sénégalais. Parce que c'est le président de tous les Sénégalais. C'est en même temps un manque de respect à l'endroit de tous ces Sénégalais, de tous ces jeunes qui ont voulu voir partir Wade et élire Macky Sall.
Maintenant, que comptent faire les Sénégalais? Est-ce qu'ils vont quand même se présenter au référendum le 20 mars?
Nous combattrons Macky Sall jusqu'au bout. Quand il battra campagne, à côté, on battra campagne pour dire aux Sénégalais, allez voter massivement non. Et quand vous voterez massivement non, le président sera désavoué. Et ça permettra aux politiciens, aux politiques en général, de comprendre que le peuple reste encore debout.
Mais vous allez laisser passer cette opportunité de réduire le prochain mandat à 5 ans.
Abdoulaye Wade, quand le Conseil constitutionnel avait validé, il y avait certains qui voulaient que les gens boycottent. Nous n'avons pas boycotté, nous avons invité les Sénégalais à aller voter, mais en ignorant le bulletin de Wade. Notre position est aujourd'hui beaucoup plus que claire. Le président Macky Sall a montré aux Sénégalais qu'il ne respecte pas sa parole. Puis surtout quelque chose qui concerne le mandat qui est quand même très très important. C'est une décision qui m'a beaucoup surpris.
Le rappeur et activiste Malal Tala, alias Fou Malade, du mouvement Y'en a marre, y répondait depuis Dakar aux questions d'Éric Manirakiza. Tchad, Albert Pahimi Padaké, le nouveau Premier ministre tchadien, nommé le 13 février dernier, a rendu publique la liste de son gouvernement hier sur les chaînes nationales. Réaction de quelques citoyens recueillis par André Kodmajingar.
De 28 membres de l'ancien gouvernement, Pahimi Padaké Albert passe à 38 avec la création d'un nouveau ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et de la démocratie locale et 8 secrétariats d'État. Deux ministères s'éclatent. Il s'agit du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Éducation nationale. Il y a au total 20 entrants contre 12 départs, parmi lesquels Hassan Sila Bakari de la Communication, Garlena Daoudjengar des Finances et Abdraman Mokhtar Mahamat de la Fonction publique. L'on note également 6 femmes dans cette nouvelle équipe contre 5. Un confrère fait son entrée dans ce gouvernement. Il s'agit de Brah Mahamat, alors directeur de la communication à la présidence de la République, qui se voit confier le portefeuille de l'environnement et de la pêche. Les tout-puissants ministres sous débit tels que Moussa Faki Mahamat des Affaires étrangères, Adoum Younousimi des Infrastructures, Ahmad Mahamat Bachir de la Sécurité publique et Daoussa Déby des Postes et de Nouvelles Technologies gardent leur portefeuille. Quelques citoyens dénoncent le nombre pléthorique de ce gouvernement.
On nous fait croire que le pays a un problème financier. Subitement, le nombre du gouvernement passe de 29 à 38. Ça étonne quand même. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour payer ces gens, et non seulement leur salaire, leurs équipements, leur installation. Parce que si on nous dit qu'il n'y a pas l'argent et qu'on doit augmenter le nombre de membres du gouvernement pour surcharger le budget tchadien, c'est un dommage. D'abord, la nomination du Premier ministre nous surprend parce que je viens de lire dans un journal, ce parti s'organise pour aller au Congrès le 20 pour peut-être se présenter aux élections subitement. Par quel miracle il est devenu Premier ministre?
On parle du gel de l'intégration compte tenu de la situation financière du pays. Alors je trouve que c'est une insulte à l'endroit de la population tchadienne pour ne pas répondre à toutes ces revendications.
Nous avons pensé que nos gouvernants doivent prendre des mesures salvatrices en supprimant certains postes ministériels et redresser le régime financier. Mais nous déplorons que le gouvernement soit insensé à cette situation de crise.
Trois députés à l'Assemblée nationale se retrouvent dans ce gouvernement dit de combat, y compris le Premier ministre lui-même, André Koduma Djingar Ndjamena, la voix de l'Amérique.
Depuis le 29 janvier 2016, notre confrère Birama Touré du journal Le Sphinx a disparu. Les organisations professionnelles des médias maliens ont animé une conférence de presse hier à Bamako consacrée à cette disparition. Kassim Traoré y était.
Birama Touré, reporter au journal Le Sphinx, a quitté ses parents le 29 janvier 2016 pour son domicile personnel à Sébenikoro. Depuis, personne n'a de ses nouvelles. Boukadar Touré, l'un des frères du journaliste.
Déclaration de mariage, Birama
devrait se marier. C'est pourquoi il est parti faire sa déclaration de mariage. C'était le vendredi 29 janvier. Le lendemain, samedi, nous l'avons attendu pour les restes de formalités de son mariage. Mais ce fut peine perdu. Dans la peur, nous l'avons cherché partout, dans les commissariats de police, dans les hôpitaux et même dans les morgues. Mais nous n'avons pas eu
d'informations.
La presse malienne est habituée à des séquestrations, des intimidations et autres enlèvements. Mais cette disparition est une première. C'est pourquoi le président de l'association des éditeurs de la presse malienne veut mesurer ces mots, Birama Fall.
Pour le moment, ce qui est clair et qui est constatable sur le terrain, notre confrère est absent. Juridiquement parlant, il est absent. Seul le tribunal peut constater sa disparition. À ce moment, le procureur de son lieu de résidence, qui se trouve être en commune 3, ouvre une enquête. On procède à des recherches. Ce qui est en train d'être fait. Pour le cas de disparition, on n'en est pas encore là-bas parce que tous les services de renseignement, toutes les forces de sécurité, tous les journalistes sont à pied de pour le retrouver. Donc moi, à mon niveau, je pense qu'il est absent. Il n'est pas mort, il n'est pas disparu.
Aujourd'hui, cette disparition de notre confrère alimente toutes les causeries dans les grains à Bamako et les commentaires sur les réseaux sociaux. Le président de l'Union des radios libres et télévisions du Mali, Cheveux Prudent, Bandjougou Danté.
Il y a les faits, il y a la vie de l'homme. Donc, si toutefois nous nous hasardons à faire certaines déclarations et que le lendemain on se retrouve avec la triste réalité en face, c'est honteux. Dans ces conditions, honnêtement, il faut saluer toutes les démarches qui ont été entreprises par la famille, par les camarades, par les autorités. Et jusqu'ici, nous faisons confiance à tout le monde et nous invitons tout le monde à rester mobilisé, vigilant.
Pour une fois, la presse malienne n'est pas seule à rechercher le confrère disparu. Les services de renseignement, avec à leur tête la DGC malienne, sont à pied d'œuvre. Birama Fall, président de l'association des éditeurs de presse au Mali.
Les sujets qu'il traitait, c'est des sujets qui ne fâchent pas. Je ne vois pas pourquoi on va l'arrêter, on va l'emprisonner ou bien on va l'agresser. Moi, je ne vois pas ça. Maintenant, ça aurait été un autre journaliste. Je peux compter qu'il avait été arrêté. Mais la sécurité d'État qui se cherche aujourd'hui a choisi de nous accompagner. Il y a deux officiers suprêmes de la sécurité d'État qui sont en train de le chercher activement. Sans compter qu'au niveau des services de la police scientifique, on a fait une traçabilité sur son téléphone. Donc, on est en train de voir à qui il a téléphoné, quand est-ce qu'il a téléphoné, où il a téléphoné.
Il y a de l'espoir chez les confrères, dans la mesure où les enquêteurs ont pu savoir où Birama a fait ses derniers appels téléphoniques avant de disparaître. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Arrestations, censure, kidnapping, des menaces parfois fatales pour les journalistes de la Syrie. Au Nigeria, les terroristes les éliminent. De la Somalie au Burundi, les régimes musellent la presse. Nicolas Hénin, journaliste et ancien otage de l'État islamique, en parlera avec nous. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, ici Rouge et Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Rouge et Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Yeah.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. La mise en onde était assurée par Anne Albertson et à la console, c'était John Ellison. Anastasie Tudiech avec vous pour la présentation. Rendez-vous sur Facebook, VOA Afrique, et puis sur notre site internet voafrique.com. Très belle journée à toutes et à tous à l'écoute de VOA Afrique.